Jacques, le ravi, Radio Grenouille.
Les années passent, tout trépasse, mais pas la grande tchatche. Voici le retour de l'incontournable rendez-vous politique du Ravi sur Grenouille, la radio qui se mouille. Au micro, pour vous servir, Michel Guéraud, rédacteur-chef du mensuel régional Pas Pareil. Afin de commencer l'année, que nous aurions pu inviter le nouveau maire de Marseille ou sa première adjointe. Trop convenu pour une émission politique. Juré craché, ce sera fait avant le 31 décembre. Aujourd'hui, dans ce studio, pour débuter l'année en fanfare, nous avons donc choisi sans hésiter de recevoir une invitée exemplaire, Lisa Mandel. Mais avant de tchatcher, comme c'est l'usage, faisons donc un peu connaissance. Levons d'abord toute ambiguïté pour celles et ceux qui n'auraient jamais ouvert l'un de vos albums. Au choix, on peut les plaindre ou au contraire les envier d'avoir enfin une perspective plus stimulante qu'une dose de vaccin. J'enfonce le clou. Vous n'êtes ni sénatrice, ni députée, ni maire, ni à la tête d'un parti. Vous êtes autrice de bande dessinée. Une activité essentielle pour combattre le conformavirus, d'utilité publique, donc éminemment politique, et le tour est joué. Vous voilà donc élue présidente d'honneur de la Grande Tchatche. Vous êtes née à Marseille il y a 43 ans. C'est le genre de truc, paraît-il, qu'il ne faut jamais dire. Mais que vous ne cachez pas à vos lecteurs, car vous pratiquez la BD autobiographique. Vous êtes l'une des premières en France à avoir investi blog et autres Instagram fédérant une communauté. Vous avez toujours voulu dessiner, au point, pourtant bon élève, d'opter pour la filière technique souvent dévalorisée avec une terminale en art appliqué au lycée Diderot au nord de Marseille. Difficile en réalité de vous mettre dans une case. Vous êtes diplômée des arts déco de Strasbourg, la prestigieuse formation pour l'illustration. Mais vous avez d'abord été repérée avec Nini Patalo, BD jeunesse à l'univers déjanté, inventant une sorte de Titeuf au féminin. Lewis Trondheim, vous parraine, papa de Lapino, c'est l'un des créateurs de l'association Maison Phare de la BD Alternative. Vous y publiez HP sur le milieu des hôpitaux psychiatriques. Plus tard, vous cofondez Sociorama, une collection chez Casterman pour adapter en BD les recherches sociologiques. Vous y signez, après 6 mois de reportage avec la sociologue Yasmine Bouaga, des nouvelles de la jungle de Calais pour témoigner du sort des migrants avant leur expulsion. Lisa Mandel, ou l'art de raconter avec sérieux le plus futile et avec légèreté le plus tragique. Édité par les meilleures maisons d'édition, publié dans la matinale du Monde, vous venez pourtant d'auto-éditer votre dernier album après un financement participatif. Et vous lancez maintenant une structure alternative pour éditer autrement les auteurs de BD. Lisa, à la fois in et out, Mandel ou l'art de la synthèse, c'est évident, vous êtes une candidate crédible pour la prochaine présidentielle. Votre dernier album, un imposant volume de 400 pages, est le résultat d'un défi que vous vous êtes lancé publiquement. S'engager à tenir 20 résolutions durant un an et à le raconter en postant une page tous les jours. Titre de cet album, plus que jamais d'actualité, une année exemplaire, demandez le programme. Voilà pour le petit portrait. Une réaction peut-être?
Ben non, mais c'est bien, la synthèse est efficace. Donc je trouve que c'est très bien. Après, juste pour lui rendre quand même l'honneur qui lui revient, même s'il n'entendra pas forcément l'émission parce qu'il n'habite pas du tout dans la région, c'est Charles Berberian et Dupuis et Berberian à l'époque qui m'ont aussi beaucoup aidé.
D'accord, je me suis planté.
Voilà, en même temps que... Non, mais Lewis aussi, Lewis Trondheim a été aussi très important dans mon début de carrière parce que c'est quelqu'un qui m'a toujours encouragé, qui a soutenu mon travail dès le début. Donc il est tout à fait légitime, mais il y a aussi Dupuis et Berberian. Donc oui, quand j'ai commencé ma carrière en 2003, en sortant mon premier album, j'ai été surprise en fait, de l'accueil qui lui a été fait, parce que c'était donc une série jeunesse, Nini Patalo. Après, je tiens aussi à modérer un peu le truc la Titeuf au féminin. Oui. C'était ce qu'on m'avait demandé. On m'avait demandé de faire Titeuf au féminin. En fait, c'est pas du tout ce que j'ai fait. C'est-à-dire que c'est une autrice de... C'est une autrice de BD, non, ça c'est moi. C'est une fillette, donc c'est un personnage féminin. Et ça, c'était ce qui m'était demandé. Tout le reste n'a absolument rien à voir avec l'esprit de Titeuf.
Voilà, c'est un raccourci journalistique pour un portrait vite fait.
c'était très bien. Mais juste, je voulais le dire parce que je sais que c'était
publié dans le show. Hein,
oui, c'était dans le show.
Donc le journal de Titeuf.
Tout à fait, mais j'ai pas réussi parce qu'en fait, franchement, ça m'aurait plu aussi d'y arriver à faire un Titeuf au féminin et le succès qui s'ensuit, mais j'ai pas du tout réussi à rentrer dans les cases. Moi, j'avais envie de faire du délirant, c'est toujours ce qui m'a intéressé, donc finalement, la BD est quand même très basée beaucoup sur l'humour absurde, sur des situations abracadabrantes, donc pas du tout sur un réalisme tel que qu'a fait en fait la notoriété de Zep, qui a réussi à se réapproprier le monde de l'enfance d'une manière un peu crue et loin des clichés. Un peu cucul après, enfin, je ne vais pas être méchante, mais un peu convenu et sage qu'avait pu être fait par les autres personnes qui ont essayé de traiter l'enfance. Lui, il a un côté trash, c'est ce qui a fait son succès. Voilà.
Nini Patalo, ça fait longtemps que le tome 5 est le dernier, donc date apparue. Et pourtant, ça continue. Enfin, c'est une BD qui continue à être lue, partagée, vendue. Il y aura un tome 6 ou c'est...
Alors, il devait y avoir un tome 6, finalement, que la collaboration avec Glénat a été annulée parce que, dans le même temps, je me suis lancée dans cette aventure, peut-on dire mes aventures, de l'année exemplaire. Et en fait, ça m'a pris tout mon temps et je n'ai pas pu honorer mes engagements auprès de Glénat. Et du coup, le contrat a été annulé, ce qui est une première. Hein. Je n'avais jamais annulé un contrat de toute ma carrière. Et donc, voilà. Donc, le sixième tome n'aura pas lieu. Aussi parce que j'en ai fait un sixième un peu, je pense derrière ça il y avait un peu de la nostalgie parce qu'effectivement beaucoup de gens me reparlent de la série quand je suis en salon en dédicace et que moi j'ai une série que j'aime beaucoup, c'est la première que j'ai faite, elle m'a amenée aussi quelque part là où je suis aujourd'hui et donc j'ai voulu m'y replonger mais en fait 10 ans étaient passés, presque une vie pour moi, il s'est passé plein de choses entre le moment où insouciante j'ai commencé cette série jeunesse et la vie qui m'est tombée dessus à plein de moments et qui m'ont changé quelque part et donc même si j'ai toujours de l'humour, enfin on va dire ma flamme et ma passion pour la BD est restée intacte. Par contre, mes ambitions et mes envies ont changé et donc en fait je me reconnaissais plus dans cette bande dessinée complètement ludique. J'ai envie depuis plusieurs années de traiter des sujets plus importants pour moi et du coup j'étais plus dedans et puis c'était une autre j'étais plus jeune, c'était une autre époque et je le regrette hein, parce que j'aurais aimé que cette série puisse continuer mais la réalité m'a montré que j'aurais fait quelque chose de moins bien donc c'était mieux de laisser tomber.
Ok, alors là, effectivement, on va commencer par ça. Cette année exemplaire, ça tombe bien, c'est le moment où tout le monde continue à faire des vœux. et donc, premier truc, vous n'avez pas fait ça un 1er janvier, un 31 décembre.
Non.
Ça démarre en fait hein, le 15 juin de 2019, cette année exemplaire.
Ouais, l'idée la plus pourrie de l'année, je dois dire, parce que c'était juste avant l'été. Donc en fait, juste avant l'été, j'ai décidé d'arrêter de boire de l'alcool, d'arrêter de fumer. Je fumais que quand je buvais, mais... Du coup, j'ai arrêté ça, d'arrêter de manger sainement, d'arrêter de faire du binge watching, comme on dit, de m'enfiler des séries pourries et arrêter aussi de mes addictions aux jeux vidéo sur mon smartphone parce que c'était une de mes grandes passions. Et donc, en gros, j'ai arrêté tout ce qui était considéré comme impur en me concentrant sur ce que j'avais considéré comme pur, c'est-à-dire ne regarder que des chefs-d'œuvre du cinéma. Si je regardais une série, ne regarder que 2 épisodes à la fois et que des séries excellentes, manger que des choses bonnes pour la santé. Alors, je parle beaucoup des régimes dans mon livre parce que je suis complètement contre en fait le concept de régime parce que c'est ce qui m'a amené là où je suis aujourd'hui aussi et donc voilà je suis partie sur quelque chose qui était très auto-centré, qui était très développement personnel et en même temps je l'ai fait publiquement et derrière ça il y avait une envie c'est vrai de m'auto-éditer, c'était aussi un prétexte pour m'auto-éditer et finalement ce sujet prétexte a pris de l'ampleur et s'est ouvert sur le monde parce que le monde simplement s'est invité chez moi et que finalement ce qui est intéressant je trouve dans cette année exemplaire c'est qu'elle commence sur des envies vraiment en fait assez superficielles et finalement elle s'étoffe pour devenir un peu le quotidien d'une Française au milieu du Covid et en fait du coup mon destin est devenu un peu celui de beaucoup de gens autour de moi et du coup le livre a pris une autre ampleur et donc l'expérience s'est révélée extrêmement enrichissante mais extrêmement épuisante aussi.
Oui, donc l'année exemplaire elle très rapidement elle tourne effectivement au cauchemar.
Oui, ça devient horrible. Alors après bon,
il y avait un commandement au départ mais déjà au bout de quelques jours ils sont réécrits.
Oui. Bon, au bout de quelques jours, je me rends compte que c'est pas possible mais surtout j'ai tenu des choses mais finalement les commandements que j'ai tenus c'est ceux qui me posaient pas de problème. Par exemple, j'ai jamais eu de problème avec l'alcool donc j'ai arrêté 1 an de boire, ça m'a quasiment rien fait à part qu'on s'ennuie un peu plus dans les fêtes où tout le monde commence à être bourré mais ça m'a pas manqué spécialement. Et d'ailleurs, quand j'ai repris tout à fait modérément, ça n'a pas été difficile. Ce qui a été extrêmement difficile pour moi et qui a été plutôt un échec, ça a été le rapport à la nourriture, parce que pour le coup, j'ai un vrai problème de troubles du comportement alimentaire que j'arrive à avoir sous contrôle à peu près toute l'année, mais qui est quand même un problème et donc que je n'ai pas réussi à le régler juste en claquant des doigts. Et puis, faire du sport tous les jours, ça, je dois dire que j'ai bien raté aussi. Et le Covid, le confinement ne m'a pas aidée. À pouvoir pouvoir voilà, respecter tous mes engagements. Et en plus, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, au bout de 2-3 mois, je me suis mise à faire des crises d'angoisse et des attaques de panique. À bout de 2-3 mois où je m'étais astreinte à arrêter toutes mes addictions, je me suis sentie extrêmement mal et je me suis un peu retrouvée toute nue face à mes démons, comme on en a tous, hein, mais que je pense qui aussi étaient maintenus sous contrôle par les excès. Donc voilà, ça m'a fait réfléchir à la notion d'addiction. Et au fait qu'elles ont une utilité et que souvent on a des addictions pour pouvoir par ailleurs affronter la vie et des problèmes qu'on n'arriverait pas à affronter autrement. Et bon, moi aussi, je parle aussi pas mal de ma pathologie qui est l'épilepsie. Et d'avoir en fait arrêté toutes mes addictions, ça m'a fait un peu flamber mon épilepsie. Alors je dis pas que j'ai fait des grosses crises et tout, mais par contre, je me suis sentie assez mal pendant plusieurs mois parce que tout simplement, je me suis rendu compte aussi que les addictions, c'était un moyen c'était des sortes d'anxiolytiques qui permettaient de se détendre et que l'épilepsie est beaucoup aggravée par le stress. Et donc, en fait, de m'être créé un tel stress, je pense que je me suis sentie... En fait, oui, ça a été horrible.
Au jour 171, ça s'est dit plusieurs fois, mais il y a la formule tombe. Hein. J'ai réalisé une chose capitale, avoir une vie saine est super toxique.
Oui, voilà.
C'est une alerte.
Oui, mais après, les gens qui sont pas tellement sujets à l'addiction, ils peuvent ne pas comprendre hein, parce qu'ils vont dire mais pourquoi tu fais les choses en excès, sois modéré. Mais en fait, l'addiction, c'est le contraire de la modération. C'est-à-dire que, évidemment, si on fait tout avec modération jusqu'à 100 ans, puis c'est super. Mais le plaisir de l'addiction, c'est d'aller trop loin, c'est d'être dans l'excès. Si ça n'intéresse pas, enfin, en tout cas, moi, ça ne m'intéresse pas de manger un carré de chocolat et de m'arrêter. Ce qui est intéressant, c'est d'en manger toute la plaquette, de me sentir d'avoir un sugar rush et après de culpabiliser. Ça, c'est intéressant. C'est l'intensité. Si on n'est que dans la mesure, finalement, on n'obtient pas du tout ce qu'on cherche en consommant des produits addictifs, ce qui est la perte de contrôle et puis surtout la détente. Il y a tout un chemin neurologique de circuit de récompense qui est détraqué chez les personnes qui ont des addictions. Et donc, du coup, voilà, la modération n'a aucun intérêt dans ces cas-là.
Alors, je ne sais pas, c'était un peu ce que j'interrogeais dans l'introduction, mais quel est votre secret pour arriver finalement à rendre intéressant des trucs qui potentiellement pourraient ne pas l'être en fait.
Ouais, c'est tout le talent du raconteur. Je dis pas que y a plein de gens qui sont des bons conteurs, mais en gros c'est tout l'exercice, on va dire, parce que le talent c'est un peu poussé, mais c'est tout l'exercice d'arriver à rendre intéressant quelque chose qui potentiellement ne l'est pas du tout. Après moi j'ai toujours dit que c'était toujours la manière de raconter qui était plus importante que le sujet en lui-même, parce qu'un très bon sujet peut être absolument soporifique s'il est mal traité, et le sujet le plus anodin peut devenir passionnant pour peu qu'il soit bien raconté. Après, moi, j'étais à bonne école parce que je pense que d'abord, c'est pas pour faire d'essentialisme et pour être chauvine, mais je trouve que les gens du Sud racontent spécialement bien les histoires. Enfin, moi, j'ai toujours trouvé que les meilleurs conteurs que j'ai rencontrés dans ma vie et les gens qui racontaient les histoires en y mettant le plus de cœur étaient des gens, il se trouve, du Sud. Bon, beaucoup dans ma famille, hein, faut le dire. Mais qu'il y a quand même quelque chose il y a une tradition, je pense, de la culture orale et de la théâtralisation des récits que je trouve, dont moi, je pense que j'ai hérité en toute modestie. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui racontent très bien les histoires et qui arrivent à nous amener avec eux. Donc voilà, oui, moi j'ai essayé de repérer l'absurde dans la... En fait, en gros, quand on essaie de trouver quelque chose de drôle dans une situation anecdotique, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin, c'est-à-dire qu'on va essayer de tirer, de tirer le fil, la chose, l'angle qui va faire que le sujet va... Toute l'absurdité du sujet va ressortir ou tout le côté humoristique du sujet va ressortir. Bah, c'est tout. Franchement, c'est un exercice, c'est extrêmement difficile. Moi, je me suis épuisée à cet exercice, hein, je dois dire. Mais c'est un fonctionnement... narratif. Et
alors, il y a cet autre mécanisme qui marche merveilleusement. Enfin, c'est cette capacité à, sur des choses finalement assez dramatiques ou des sentiments douloureux. Et ça parle vraiment très fort à beaucoup de monde en ce moment, en ce début d'année. Enfin, avec cette perspective de reconfinement, ce couvre-feu généralisé, une sinistrose galopante. La situation est anxiogène. Sur tous les plans sociaux, politiques, etc. Bon, et c'est un exemplaire, je ne sais pas, si on prend par exemple, vous êtes en souffrance et vous le racontez, effectivement, ça arrive jusqu'à l'épilepsie. c'est pas marrant du tout, et ça l'est pourtant beaucoup. Enfin,
bah, voilà. Parce que c'est vrai que je joue beaucoup sur l'autodérision, donc j'ai accepté que mon personnage, c'est un peu aussi un souffre-douleur. Donc j'hésite pas à me moquer de moi-même, dans mes BD en tout cas. Et encore une fois, je fais le distinguo. Dans la vie, je suis pas forcément quelqu'un, je peux être très susceptible, enfin, je suis pas forcément quelqu'un qui est dans l'autodérision en permanence. J'aimerais bien, mais c'est pas le cas. Par contre, dès que je commence, il y a une espèce de magie qui s'opère, ou quand je commence à raconter mes histoires en bande dessinée, ça crée un filtre, ça crée un recul, ça crée un pas de côté qui fait que après je suis capable de voir la vanité de ce que je ressens, l'absurdité du monde, et tout simplement aussi, je sais pas, c'est le fait de faire de la BD, mais se rendre compte que tout est, voilà, que il y a une espèce d'absurdité dans l'existence de manière générale qui fait qu'on peut rire de tout, et surtout de soi-même. Et c'est vrai que du coup, je pense que ça marche dans les deux sens. À la fois, un truc anecdotique, une fois que je le raconte, il peut y avoir un intérêt dedans que je n'avais pas vu. Et puis, quelque chose de très grave. Là, c'est vraiment, je ne peux pas faire autrement. Même quand je vis une situation dramatique, si je commence à la dessiner, je ne peux pas m'empêcher d'en rire. C'est-à-dire, pas de rire de la situation, mais de rire de moi, mon rapport à la situation, comment je réagis. Et je me rends compte que c'est tellement aussi du luxe. Enfin, moi, il y a plein de fois où je me rends compte que je suis quand même dans un confort de femme, de femme blanche d'un pays riche qui est aux prises avec des espèces de problématiques de luxe, qui peut se payer le luxe de rester dans son lit en disant « Oh là là, c'est trop dur la vie », alors que 98% de la planète, surtout les femmes, n'ont pas ce luxe. Et donc, du coup, à un moment donné, on est obligé de relativiser même les choses les plus graves qui nous arrivent, parce qu'elles sont en fait... pas si grave que ça, et que c'est aussi la condition humaine. Alors moi, je sais pas, je pense que ouais, ça rend un peu philosophe de dessiner, de faire des bonhommes marrants, même dans des situations qui ne le sont pas, ça oblige à relativiser, quoi.
Alors dans le Ravi de ce mois-ci, on tire sur et surtout la santé, et puis on a fait un supplément très spécial sur les problématiques de santé dans les quartiers populaires marseillais, et un des problèmes dans ces quartiers, mais pas que, c'est la malbouffe et ses effets. Le surpoids.
Ouais.
Bon, alors on s'en fout, mais vous n'êtes pas obèse, et à la limite, non. Vous le sauriez, pourquoi pas.
Alors,
est-ce qu'on peut rire de tout? Est-ce qu'on peut parler de ça? Et d'ailleurs, au début, il y a toute une tension, on sent, sur les réseaux sociaux, parce qu'il faut rappeler que les pages sont publiées tous les jours, et on sent que. Alors là, il y a une grosse difficulté. Comment parler? Comment nommer? Sans faire de la grossophobie.
J'ai essayé d'être extrêmement respectueuse dans mon livre, à tous les niveaux. J'ai un peu foiré au niveau de la grossophobie, parce que moi, je parlais de moi, je parlais de mon surpoids. Après, je suis pas obèse. Après, faut voir que je trouve que c'est un mot horrible qui est lié à un IMC. En fait, selon l'IMC, moi, je suis obèse. Hein. Je suis en obésité légère. Donc, en fait, l'obésité, elle commence très... En fait, en vérité, le mot
L'IMC,
obésité...
L'IMC, c'est l'acronyme,
l'indice de masse corporelle, okay. C'est-à-dire c'est une multiplication entre la taille, le poids, l'âge, okay. Je sais pas
c'est
quoi,
la norme.
En gros, il y a une norme, et moi je dépasse de la norme. Par exemple, tel que vous voyez bien, je suis un petit peu en surpoids, mais c'est pas non plus effrayant. Mais sur le papier, je suis obèse. Donc je veux dire, après, il faut que les gens se calment aussi dans les termes qu'ils emploient, parce qu'effectivement, obèse, ça va de mon poids à moi, à quelqu'un qui est après ce qu'on appelle l'obésité morbide, qui est dans un tel surpoids qu'il peut plus se déplacer, que c'est dangereux pour sa santé. N'empêche que c'est toujours le même mot qu'on utilise. Donc après, c'est comme gros, quoi. Voilà, on est gros à partir de quand? Voilà, moi je suis déjà un peu grosse, il y a des gens qui sont très gros. Mais c'est vrai que moi au début, j'étais un peu dans une chasse, j'étais je pense dans une grossophobie intériorisée. Et c'est vrai que j'avais une haine de mon surpoids. Et puis moi j'ai grandi, comme beaucoup de femmes, dans un milieu et dans une société qui valorise la minceur. Moi maintenant on valorise les hanches fines, enfin la taille fine, mais on valorise les gros postérieurs, on valorise les gros seins. Moi j'ai grandi à une époque où c'était Kate Moss, quoi. Donc en fait j'avais très peu de chance de rentrer dans les canons de toute façon. Et voilà. Et ma mère a subi elle-même la même pression sociale, parce que les années 70, c'était pareil, c'était les femmes brindilles. Les années 90, c'était plutôt les femmes maigres et musclées. Et moi, j'en parle là, dans mon livre. Et c'est vrai que moi, j'ai fait la chasse au gras. C'est-à-dire qu'au début, quand j'ai commencé mon livre, je me disais clairement, ah, si je peux perdre 20 kilos, ce sera super. Mais en réalité, là-dedans, je pense que j'ai heurté la sensibilité d'énormément de femmes qui se battent au quotidien pour qu'on arrête de cette injonction à la minceur et cette discrimination du fait qu'elles sont en surpoids. Et elles se sont senties, en fait, trahies par mes propos. Et là encore, si on lit le livre, on se rend bien compte que je ne parle que de moi. Je suis jamais, parce qu'en fait, je crée un alter ego maléfique, et en fait, qui est gros, qui fume toute la journée. Enfin, c'était mon personnage, mais je l'ai pas spécialement décidé qu'il soit gros. Je l'avais fait gros, et en fait, ça n'a pas passé. Je me suis même fait bloquer. Il y a des internautes qui ont demandé qu'on me bloque sur Twitter. Et j'avoue que je m'en suis moquée parce que je me suis dit, moi j'aime pas trop ces façons de résoudre les conflits. Il y a aussi des gens qui trouvent un sens à leur vie en étant tout le temps dans la colère et dans la haine des autres. Moi je préfère la discussion, j'étais pas fermée. Je veux dire, j'aurais préféré que des personnes me contactent et me disent, Lisa, mais calmement, me disent là ce que t'as dit, tu vois, et que ça aurait pu induire une discussion et que moi j'aurais remise avec plaisir dans ma BD parce que j'estime que je suis capable de me remettre en question. Et ça n'a pas eu lieu. Il y a eu une violence qui s'est déchaînée. Les gens sont... C'est des meutes parce que Internet, c'est quand même... Beaucoup de gens en ont fait les frais. C'est des meutes. Et j'ai fait partie de ces meutes. Hein. En plus, ça m'a aussi re-questionnée sur moi des fois où j'ai pu faire la même chose à d'autres gens, c'est-à-dire juger à brûle-pourpoint, à l'emporte-pièce. Je vais chercher tous les mots qui ont des tirés. Où j'ai pu moi-même participer à la chasse aux sorcières comme ça et stigmatiser des gens et faire vraiment haro sur la bouchère. Donc je vois, ça m'a vraiment questionné aussi là-dessus. D'ailleurs, j'ai quitté Twitter pendant un long moment parce que je supportais pas en fait ce truc de Twitter d'arriver de pas bonjour pas merde et d'aller donner son avis sur le travail de quelqu'un en s'en foutant complètement de qui y a derrière et que j'ai fait moi-même d'ailleurs. Enfin, ce qui est horrible, c'est que je l'ai fait subir à d'autres, pas beaucoup de gens, mais je l'ai fait peut-être une fois ou deux. À chaque fois, je l'ai regretté. Et donc, j'ai préféré me rabattre sur Instagram, qui est beaucoup plus bienveillant, et puis sur Facebook, qui devient, c'est pas forcément bien, mais qui devient vraiment le site familial où j'ai plutôt les amis de mes parents, ma famille qui suit, et il y a moins, et voilà. Donc, ça m'a permis aussi de faire un petit tour des réseaux.
Les réseaux sociaux, c'est bateau la question, mais ça peut faire peser une police de la pensée. Ouais,
oui,
clairement.
C'est-à-dire qu'après...
Ils vont emporter ces réseaux, ils vous portent encore.
Ah non, mais moi, je remercie tous les jours le public que j'ai, qui me suit sur les réseaux sociaux, parce que c'est mon public, c'est des gens... vraiment qui ont soutenu mon travail du début. Moi, j'ai reçu vraiment un soutien et une chaleur humaine, alors qu'on pourrait se dire, tiens, c'est que du virtuel. Ben non, moi, il y a des gens qui m'ont vraiment fait du bien dans mon parcours et je me suis sentie accompagnée à chaque moment et portée par les gens qui lisaient mon travail. Après, on peut pas se plaindre, dire on peut plus rien dire. C'est juste que entre le mec bourré qui va dire un truc raciste dans son PMU avec le barman qui s'en fout et son collègue aussi bourré que lui... C'est une chose, il a le droit de dire ce qu'il veut. Maintenant, s'il le dit, qu'effectivement, il y a 10 000 personnes qui le suivent, forcément qu'il va y avoir des gens qui vont le traiter de raciste et qui vont s'énerver. Donc, c'est pas étonnant que quand on a une grosse audience, parce que moi, je pense que j'ai pas réalisé que j'étais autant lue. C'est-à-dire que parfois, j'ai fait le pilier de barre. Parfois, on peut dire des trucs, on a l'impression qu'on est entre copains. En fait, ben non, les gars, il y a des gens qui regardent, des gens qui jugent. Donc, il ne faut pas s'étonner non plus d'être repris, quoi.
Et là, pendant cette année exemplaire, il y a une autre addiction qui apparaît. Donc, elle existait peut-être déjà avant, mais enfin, elle est révélée. C'est l'addiction au like.
Parce que quand on fait... Et encore, je pense que... pour le coup, je pense que j'étais quand même assez immunisée. C'est-à-dire que pour avoir tenu beaucoup de blogs, notamment, j'avais tenu un blog Libre comme un poney sauvage au début des blogs BD, que j'avais arrêté quand je suis devenue épileptique, parce que l'épilepsie, ça a vraiment été un point de rupture dans ma vie où j'ai arrêté beaucoup de choses. Et j'ai ensuite été. J'avais un blog sur lemonde.fr, mais qu'on avait bloqué les commentaires, parce que c'est pareil, je trouvais que c'était trop violent par rapport au sujet qu'on traitait, qui était à l'époque la jungle de Calais. Parce qu'après, on fait des pages, on voit quand il y a plus de likes, quand il y a moins de likes, les gens qui commentent moins. Et c'est vrai qu'on devient un peu addict à la reconnaissance, à la validation sociale, voilà. Mais ça, c'est impossible de s'en extraire. Après, moi, ça a été vraiment le temps du bouquin, c'est-à-dire que du moment où j'ai arrêté mon livre, là, je continue de publier, mais beaucoup moins parce que j'ai trop de sollicitations, je vais pas m'en plaindre, mais j'ai pas un manque, je suis pas là à dire oh non, les gens ne vont plus me lire. Mais quand j'y étais, c'est vrai que c'était devenu un peu, oui, une addiction, quoi. Mais tu penses qu'on peut vraiment, on peut pas y échapper.
Moi, j'ai pas été bonne, c'est ça. C'est une page par jour. Hier, franchement, là, je bide. Enfin, il y a ce sentiment.
Alors, l'avantage de faire tous les jours, c'est que j'avais pas le temps de trop me plaindre. Genre, ah non, là, c'est un bide. Ah, ben, j'étais déjà sur l'autre. Donc, à la limite, si j'avais fait un bide, c'était pas grave. Hein. C'est juste que c'est vrai que parfois, je m'attendais à des. Il y avait des pages qui étaient décevantes au niveau des likes. Ou des fois, je faisais une page, je sentais que ça allait pas marcher. Et d'ailleurs, ça marchait pas. Puis après, j'étais déçue de moi-même. Voilà ça. Mais globalement, j'avais quand même. En fait, on a des fourchettes, donc il y avait au-delà, voilà, quand vraiment c'était en dessous de ma fourchette habituelle, je commençais un peu à chouiner. Et après, il y a des succès fous aussi. Mais en fait, ce qui m'a perturbée, c'est que autant la déception, elle est énorme quand, mettons, ça marche pas ou que d'un coup on sent que les gens sont moins. Autant la satisfaction quand ça marche à fond, elle est pas énorme. C'est-à-dire que je me rends compte que ça ne... on cherche à remplir un vide qui n'est pas remplissable avec des likes virtuels. Et ça, ça aussi, ça a été une grosse réflexion pour moi de me dire, mais en fait, même quand ça cartonne, ça me stresse. En fait, ça induit du stress, mais ça induit pas forcément un soulagement. Au contraire, en fait, on a la pression, on a envie de faire encore mieux la fois d'après. En fait, le résultat attendu n'est pas celui escompté. Je sais pas comment...
Ok. c'est un véritable catalogue des phénomènes de société là. Les sociologues pourront travailler là-dessus après.
Voilà,
hein.
C'est ça.
Il y a les séries débiles qui est quand même quelque chose de. Alors là, très rapidement, c'est raté.
Avec le confinement.
Malgré la collection de films à réessayer à disposition.
Non, j'avoue. Bah déjà, il y a toute une partie de la collection que j'ai repoussé, enfin que j'ai vraiment renié, qui était, il y a plein de westerns, en fait il y a plein de films qui sont des classiques, mais en fait qui sont d'un machisme, d'un virilisme, et puis alors c'était encore l'époque où ils tuaient vraiment les chevaux.
Un oncle, hein, c'est ça
C'est le deuxième mari de ma grand-mère qui est décédée aussi, mais qui était beaucoup plus jeune qu'elle, et dont j'avais plus tellement de nouvelles, mais qui, dont finalement... on a dû vider l'appartement avec mon père et ma sœur et j'ai récupéré sa collection de DVD de prestige. J'en fais profiter énormément de gens, c'est-à-dire que je prête énormément ces DVD-là. Mais c'est vrai qu'il y a toute une partie dont moi, je ne suis pas fan.
Le Vidéodrome 3.
Mais il y a vraiment énormément de choses et il y a des choses extraordinaires. Il y a tout le cinéma italien, japonais, il y a vraiment des choses géniales. Mais oui, j'ai pas réussi parce qu'en fait, il y a des fois, on a juste envie de se détendre. En fait, le truc, c'est que je me suis vraiment rendu compte que dans la vie, j'avais besoin de me détendre et que regarder un chef-d'œuvre de Visconti, c'est pas forcément ce qui détend le plus sur la terre. Et du coup, parfois, j'avais besoin de vraiment de me noyer dans autre chose. Donc, j'ai regardé toutes les séries Netflix et toutes les séries OCS, tout ce que j'ai pu gratter comme série. Je l'ai fait. Et c'est vrai que rapidement, j'ai un peu laissé tomber ce truc de me retenir parce que. J'en voyais plus l'utilité au bout d'un moment. J'étais tellement moi-même dans le mal-être à cause de toutes ces choses qui me tombaient sur la tête que j'ai lâché prise sur des sujets.
La Grande Tchatche, l'émission du Ravi sur Radio Grenouille.
Allez, on est à la moitié de l'émission et puis la petite tradition, c'est la chanson choisie par l'invité. Et donc, on a Kenny Arcana avec « La rage ».
La rage, mais c'est pas celle qui fait baver. Demande ta fable, la vie claque comme on se mêle sur les pavés. La rage de voir nos buts entravés, de vivre en travers. La rage gravée depuis bien loin en arrière. La rage d'avoir grandi trop vite quand des adultes volent ton enfance. Pas imagine un mur et impoli. La rage car impossible et cette paix t'en voulu. La rage de voir autant de CRS armés dans nos rues. La rage de voir ce putain de monde s'autodétruire et que ce soit toujours des innocents au centre des tirs. La rage, car c'est l'homme qui a créé chaque mur, ses barricades et béton. Aurait-il peur de la nature? La rage, car il a oublié qu'il en faisait partie des harmonies profondes. Mais dans quel monde la colombe est partie? La rage d'être autant balafré par les piquants des normes. Et puis la rage, ouais la rage d'avoir la rage depuis qu'on est mort.
La rage,
on restera debout quoi qu'il arrive.
La rage,
d'aller jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie.
Parce qu'on a la rage,
on pourra plus taire ni s'asseoir. Dorénavant on tiendra prêt parce qu'on a la rage, le cœur et la foi. Quoi qu'il arrive, j'allais jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie.
La rage,
rien ne pourra plus nous arrêter. Insoumis, sage, marginal, humaniste ou révolté. La rage, parce qu'on choisit rien et qu'on subit tout le temps. Et vu que leurs choix sont bancales et belles, tout équilibre fout le camp. La rage, car l'irréparable s'entasse depuis un bout de temps.
La rage,
car qu'est-ce qu'on attend pour se mettre debout et foutre le bouc.
La rage,
c'est tout ce qui nous laisse,
passons
tout ce qui nous reste. Car combien des notes finiront par retourner leurs fesses. La rage, de vivre et de vivre l'instant présent. De choisir son futur libre et sans leur cri d'oppression.
La rage,
car c'est la merde. Que ce monde y adhère, parce que tous leurs chats OGM stérilisent la terre.
La rage
pour qu'un jour l'engrenage soit brisé.
La rage
car trop lisse vérité sur leur écran télévisé.
La rage
car ce monde ne nous correspond pas. Nous nourrissent de forêts pour placer leur rempart.
La rage car ce monde ne nous correspond pas. Où Babylone s'engraisse pendant qu'on crève en bas.
La rage, on restera debout quoi qu'il arrive.
La rage,
j'allais jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie.
Parce qu'on a la rage,
on pourra plus se taire ni s'asseoir. Dorénavant on tiendra prêt parce qu'on a la rage, le cœur
la foi.
Quoi qu'il arrive, j'allais jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie.
La rage,
rien ne pourra plus nous arrêter. Insoumis, sage, marginal, humaniste ou révolté.
La rage,
d'y croire et de faire en sorte que ça bouge.
La rage,
d'un Chirac, d'un Charonne, d'un Tony Blair ou d'un Bush.
La rage,
car ce monde voit rouge, mais de gris ça y s'entourer. Parce qu'ils n'entendent jamais les cris lorsque le sang coule.
La rage,
car c'est le pire que nous frôlons.
La rage,
car l'Occident n'a toujours pas ôté sa tenue de colon.
La rage,
car le mal tape sans cesse trop et que ne sont plus mis au
toujours dans de grands sabords ancestres.
La rage.
Trop de mensonges et de secrets gardés. L'élite de nos états riche de vérité pouvant charger l'humanité.
La rage.
Car ils ne veulent pas que ça change.
Ils
préfèrent garder leur pouvoir et nous manipuler comme leurs anges.
La rage.
Car on croit aux anges et qu'on a choisi de marcher avec eux.
La rage.
Parce que mes propos dérangent. Faut aux quatre coins du globe.
La rage du peuple.
L'ébullition. La rage.
Voilà la rage ou l'essence de la révolution.
La rage. On restera debout quoi qu'il arrive.
La rage.
D'aller jusqu'au bout et de là on veut bien nous mener la vie.
Parce qu'on a la rage.
On pourra plus se taire ni s'asseoir. Dorénavant on tiendra prêt. Parce qu'on a la rage, le cœur
parfois. Parce qu'on a la rage.
On restera debout quoi qu'il arrive.
La rage.
D'aller jusqu'au bout et de là on veut bien nous mener la vie.
Parce qu'on a la rage.
Rien ne pourra plus nous arrêter. Insoumis, sage, marginal, humaniste ou révolté.
Parce qu'on a la rage.
On restera debout quoi qu'il arrive.
La rage.
D'aller jusqu'au bout et de là on veut bien nous mener la vie.
Parce qu'on a la rage.
On pourra plus se taire ni s'asseoir. Dorénavant on tiendra prêt. Parce qu'on a la rage, le cœur
parfois.
Quoi qu'il arrive, j'allais jusqu'au bout et de là on veut bien nous mener la vie.
Rien
ne pourra plus nous arrêter. Insoumis, sage, marginal, humaniste ou révolté. Anticapitaliste, altermondialiste, ou toi qui cherches la vérité sur ce monde. La résistance de demain,
Inch'Allah,
à la veille d'une révolution.
Alors pour le coup là c'est politique, hein. Pourquoi ce choix?
Ben parce qu'en fait j'aime beaucoup Kenya Arcana de manière générale et puis parce que justement je trouve qu'en ce moment cette chanson elle résonne beaucoup dans le climat actuel, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France avec la présence policière qui est quand même un peu impressionnante, avec le climat, voilà, le climat général. Et parce que moi, je sais qu'au fur et à mesure du temps, j'ai orienté ma carrière de plus en plus sur des sujets sociétaux et les sujets sociaux, et que c'est quelque chose qui est ma manière à moi de militer. Je viens d'une famille de militants, et la manière que j'ai trouvé pour moi d'apporter la pierre à l'édifice, c'est de traiter de sujets justement comme ceux de la jungle de Calais, qui sont des sujets un peu polémiques, et qui finalement, qui essaye un peu de donner une voix à ceux qui n'en ont pas. Alors je dis pas que j'y arrive, mais c'est un peu quelque chose qui me motive à faire mon travail. Et la BD documentaire qui s'est un peu imposée ces dernières années comme une valeur montante, voilà, et comme un nouveau média hyper intéressant, ben moi je m'en suis un peu emparée. Et c'est vrai que toutes mes dernières BD c'est un peu de la BD documentaire sociologique, BD de terrain, et j'aime beaucoup ça. Je trouve que c'est vraiment une super manière de pouvoir rencontrer les gens, la bande dessinée, et aussi sortir de chez soi, parce que ça oblige, on fait un peu un boulot de journaliste aussi. Donc
Un mot sur Calais, peut-être. Vous êtes resté 6 mois avant l'évacuation du camp, et puis là, encore ces jours-ci, hein, ça n'arrête pas. Enfin, le mot d'ordre, c'est d'éviter une fixation, je crois que c'est le terme technique, et donc sans arrêt des gens expulsés.
C'est pas étonnant, parce qu'en fait, en traitant le sujet donc, de la jungle de Calais avec la chercheuse Yasmine Boiga, on a vraiment fait le livre main dans la main. On a rencontré plein de gens, notamment Aïdé Sabéran, qui était correspondante à l'époque à l'île de Libération. On a rencontré Marilyn Baumard, qui est correspondante pour Le Monde. Et en fait, on apprend assez vite que la jungle de Calais, c'était juste la plus visible, mais qu'il y a eu 20 jungles en 20 ans. Enfin, en fait, des jungles à Calais, il y en a depuis la chute du bloc soviétique, quoi, l'effondrement du bloc soviétique et l'ouverture des frontières. Ça a commencé avec des groupes, des tziganes, en fait, qui ont essayé de passer en Angleterre. Ça a continué avec des Kosovars, il y a eu des Afghans, il y a eu des Iraniens. En fait, il y a eu des vagues. Et en fait, ça dure comme ça depuis des dizaines d'années. Simplement, la jungle de Calais, telle qu'on l'a connue en 2016, c'était la plus grosse. Voilà, visuellement, c'était le plus gros camp qu'il y avait jamais eu. Mais en fait, il y en a eu avant. Et d'ailleurs, à la fin du livre, on dit bien qu'il y en aura après, et donc ça m'étonne pas que là, ils passent leur temps à en démanteler, parce que les gens, ils ont toujours envie d'aller en Angleterre. C'est quand même le rêve anglais, entre guillemets.
Ouais. Yasmina Boaga qui est devenue maire, ELV.
Tout à fait, Yasmine Boaga est devenue maire du premier arrondissement de Lyon. Ouais.
Et alors, ce parcours-là, la politique, jamais. On ne vous a pas entendu spécialement dans la campagne électorale. À Marseille, il s'est passé des choses un peu importantes.
Le printemps marseillais, bah ouais, c'est vrai, j'étais dans d'autres. J'étais dans d'autres problématiques et j'ai pas tellement commenté. Et c'est vrai que ça a fait un peu le tour. J'ai pas tellement commenté la campagne. J'étais dans d'autres choses en fait et du coup qui me prenaient beaucoup d'énergie. Et puis du coup ouais, je me suis pas penchée plus que ça. C'est vrai que j'ai jamais été vraiment militante comme ça dans affiliée à un parti. Même si je soutiens fortement le Printemps Marseillais et que j'étais très contente qu'il gagne. Comme je disais, moi ma façon de militer, je la vis autrement, je la fais plus par les sujets que je choisis, la manière dont je traite les... Voilà, dont je fais des bandes dessinées, par aussi, justement, après m'être auto-édité, c'était aussi quelque chose d'un peu politique. Et là, on est en train de monter une structure éditoriale alternative.
Alors, on va y venir, mais peut-être un mot sur Marseille, parce que pareil, alors, Marseille est présent. Oui. Mais alors, et ça fait du bien, finalement, pas du tout de façon folklorique. Enfin, on est à Marseille, c'est normal, tranquille. Enfin, il n'y a pas de jeu là-dessus sur les mille et un clichés qui pèsent sur la ville.
Bah, disons que moi, je suis marseillaise. Donc, comme tous les Marseillais, vraiment Marseillais, il y a plein de clichés qu'on voit bien que c'est débile. Après, j'ai toujours rêvé de faire un bouquin sur Marseille, mais c'est tellement énorme que j'ai jamais réussi à le faire en me disant mais c'est tellement une ville extraordinaire qui a une histoire tellement importante avec des anecdotes tellement incroyables, comment je pourrais traiter ça? Et puis alors du coup je la traite de côté, c'est-à-dire que par exemple là j'avais fait une bande dessinée sur la carrière de mes parents en hôpital psychiatrique, notamment c'était de l'hôpital de la Timone dont il s'agissait. C'est vrai que c'est un peu en arrière-plan, on comprend qu'on est à Marseille, mais à aucun moment, enfin on comprend qu'on est à Marseille, il y a quelques enjeux politiques, on comprend qu'on est à Marseille, mais j'ai pas traité le sujet de Marseille de front. Et là pareil, je vais faire une grosse enquête de terrain sur la santé mentale à Marseille, donc forcément on va voir qu'on est là, mais j'attaque pas, oui, parce que c'est un énorme morceau Marseille, enfin faut voir Et puis oui, alors du coup avant tout c'est quand même une ville française, je veux dire, elle a beau être très particulière et très atypique par rapport à beaucoup de villes en France, j'essaye pas d'être néocolonialiste et de l'exoticiser, quoi. J'ai horreur de ce qui est arrivé au panier, je trouve ça horrible. Moi, je suis née à Marseille, je viens de la middle class et j'ai toujours habité, j'ai grandi sur la plaine du côté de mon père et dans le 11e du côté de ma mère. Mais quand je suis allée me réinstaller à Marseille, je suis allée au cours Julien en me disant c'est l'endroit où je dois être, parce que je trouvais que ma classe sociale et d'où je venais, c'était logique que je sois là. Mais par exemple, je ne serais pas allée, et ça c'est politique, je ne serais jamais allée m'installer au panier, parce que moi j'ai vu le panier, j'ai vu ce qui est arrivé, comment ça a été maintenu dans un délabrement, qu'on a évincé des gens de leur domicile pour en fait retaper, et que maintenant c'est un truc où on essaie de rendre ça bobo, qui est devenu carton-pâte. Moi j'habiterai jamais au panier, voilà. Après ça c'est mon... Mais la gentrification elle se fait quand même, je veux dire quand... Mais voilà, après j'ai mes petits trucs politiques comme ça, mais je n'en veux pas du tout aux gens qui habitent au panier. Moi j'ai des amis qui habitent au panier, je leur jette pas la pierre, mais moi
attention, ça va être comme pour les groupes.
Je n'en veux à personne d'habiter au panier. Je dis juste que moi quand j'ai eu l'occasion de déménager, je voulais pas habiter au panier, mais aussi parce que j'aime pas le quartier du Vieux-Port, parce que j'ai grandi aussi, parce que voilà, j'ai grandi sur la plaine, et alors sur la plaine je mourais, et j'avais envie d'habiter toujours le même quartier, mais c'était un peu monomaniaque, mais quand même le côté Il n'y a pas très longtemps, j'avais été invitée à une émission de radio. Et en fait, c'était une émission de radio qui était au départ à Paris et qui se déplaçait pendant l'été à cause du confinement et des restrictions, qui se baladait, qui allait interroger les gens dans les villes. Alors, je trouvais ça super, ils m'ont invitée. Sauf qu'en fait, les autres gens qui étaient invités dans l'émission, moi j'étais une des invitées, en fait, ce n'étaient pas des Marseillais, c'était des gens qui s'étaient installés à Marseille et qui s'étaient... coopter les uns les autres pour se donner des plans. Et en fait, donc, cette radio venait interviewer en fait des gens qui n'étaient pas de Marseille pour parler de Marseille. Et je m'étais dit, mais voilà, alors ça, c'est vraiment le truc hors sol que je déteste le plus au monde. Donc voilà, moi, je sais que si je dois faire un jour un truc sur Marseille, je vais vraiment faire attention d'impliquer les Marseillais dedans. En plus, moi, ma famille est marseillaise, donc j'ai pas non plus... pas trop difficile, quoi. Et puis je viens pas d'un milieu très aisé ou très décalé, donc voilà, ma famille c'est vraiment des gens de Marseille qui sont nés là, qui ont une identité forte du sud, donc mais je sais que voilà, c'est un sujet qui est trop important pour moi pour le traiter comme ça, voilà.
Et alors, pour le coup, un engagement et pas une petite affaire. Voilà que vous voulez lancer une maison d'édition exemplaire dans la foulée de ce bouquin auto-édité. La maison exemplaire. Alors pourquoi? Alors le mot d'ordre C'est une maison qui dit autrement, rien moins que ça.
Ouais, ouais, on a été. Je voulais pas forcément l'appeler comme ça, mais finalement, c'est le nom qui est revenu. C'est-à-dire que j'essaie de trouver d'autres noms et c'est toujours Exemplaire qui revenait. Et donc, je me suis dit, bon, bah, ça emplace la barre haute, mais aussi il y a le jeu de mots avec un exemplaire de quelque chose. Donc, c'est rigolo d'avoir écrit Exemplaire sur son livre. Donc, oui, l'idée, c'est qu'en fait, moi, donc, ça fait presque 20 ans que maintenant que je suis dans la bande dessinée, que je suis éditée par des gros éditeurs. En général. Et en fait, y a plein de choses. J'ai des frustrations qui ont grandi au fur et à mesure des années. Et surtout, j'ai pu assister donc, à la précarisation des auteurs. C'est-à-dire que quand j'ai commencé, ça commençait déjà à aller un petit peu mal, mais ça allait encore. Et en fait, au cours de ma carrière, j'ai pu voir vraiment la presse s'effondrer, les paiements au forfait arriver. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé, on était encore payé à la page. Mmh. Ça veut dire qu'on touchait 300, je touchais à l'époque 300 euros la page. Et du coup, en fait, ça allait, quoi. Et pour des livres de 46 pages couleurs, si on en faisait deux dans l'année, ça allait. Et puis, juste avant moi, c'était encore le temps où les gens vendaient beaucoup de livres parce qu'il y avait moins d'auteurs. Donc, c'était courant pour un auteur, il y a 30 ans, de vendre 20 000 exemplaires
et
de son
livre. C'est paradoxal parce qu'il se vend beaucoup de BD.
Oui, mais en fait, il s'en vend pas beaucoup par personne.
D'accord.
En gros, ce que je voulais dire, c'est que donc, moi, j'ai assisté à ça et j'ai vu se dégrader les conditions de travail et j'ai vu en face de moi un mur de la chaîne du livre, notamment des éditeurs qui... Alors, je parle là que des gros éditeurs, d'abord parce que moi, c'est ceux que je connais. Et le seul éditeur indé avec qui j'ai travaillé, c'est l'association et qui sont extrêmement... qui accompagnent à fond les livres, qui sont super. Donc moi, je parle vraiment des gros. Les gros, il y a quand même un mur où, en fait, bah, ils nous font signer des contrats où ils essayent à mort de que ce soit leur avantage à eux. Il faut toujours relire 20 fois. Les avances sur droits sont de plus en plus faibles. Et les droits d'auteur sont restés les mêmes depuis je ne sais pas combien de décennies, alors là même que la situation a changé et qu'aujourd'hui, avec 8 à 10% de droits d'auteur, un auteur lambda de BD n'arrive pas à vivre correctement de son travail.
Vous sortez un chiffre effrayant, vous dites... près de 40% de la profession vit en dessous du seuil de pauvreté.
Ah mais là, je crois qu'il y a eu des nouvelles enquêtes.
36 encore, en 2016, ouais. Ouais.
Bah, sauf qu'en fait, maintenant, ce serait plutôt 50%.
50.
Donc parce que vous mettez 6 mois à faire un livre, on vous donne 2000 euros d'avance. Parce qu'aujourd'hui, il y a des éditeurs, des gros, hein, qui vous regardent dans les yeux, qui disent ouais, « ton livre, je sais pas trop, 2000 ». Mais 2000 pour 6 mois à faire un livre. Donc forcément, les gens font autre chose à côté, mais ils se retrouvent dans des précarités. Ou même moi, qui pourtant est toujours très correctement vécu de mon travail, je me suis rendu compte récemment que moi aussi, quelque part, j'étais précaire parce que ben, quand j'ai été malade, j'ai pas eu de congé mat parce qu'en fait, de congé maladie, parce qu'en fait, c'est extrêmement difficile d'y avoir accès et on se rend pas compte quand c'est qu'on doit en prendre un ou pas, que j'ai pas droit au chômage, que quand j'ai pas pu travailler parce que j'ai eu des maladies, ben, en fait, j'ai rien touché parce que j'avais pas le réflexe, que je me suis fait arnaquer dans des contrats et que je prends jamais de vacances parce que les vacances, on n'a pas de congé payé. On a un statut qui est vraiment précaire. Et pourquoi alors? Et c'est encore plus énervant quand on voit que la bande dessinée est le secteur du livre qui se porte le mieux. Effectivement, c'est un secteur qui se porte très bien. Il y a eu des chiffres d'affaires malgré le Covid, malgré le confinement qui était assez bon en 2020. Et qu'en fait, on a des grosses maisons d'édition qui s'enrichissent et que les gens sont très contents et sabrent le champagne à la fin de l'année. Et dans cette même maison, on a des auteurs qui ont du mal à payer leur loyer. Mmh. Et moi, ça, je trouve ça insupportable. Et donc, je vois pas pourquoi les auteurs et les autrices seraient la variable d'ajustement pour que la chaîne du livre puisse à peu près vivre correctement. Je trouve ça intolérable. Et en plus, c'est quand même... Sans nous, il n'y a même pas de livre, il n'y a même pas d'éditeur, il n'y a rien. Donc, alors moi, hein, si on me demandait, moi, si j'étais le président de la République, enfin, si j'étais un dictateur et que je pouvais décider, je dirais, on devrait être salarié pour ce qu'on fait. Voilà, on serait tous salariés, c'est super. C'est pas possible. Donc, j'ai réfléchi à un moyen de créer une structure qui permette de proposer des droits à ces auteurs qui seront 2 à 7 fois supérieurs à ce qui touche chez un éditeur normal.
Et là, à nouveau, crowdfunding.
Crowdfunding,
financement participatif. Ouais. Et ça a bien marché. 100 000 euros, c'est ça?
Oui, on a récolté 100 000 euros. En fait, j'ai réussi à... j'ai parlé de mon projet à des amis, auteurs de BD et tout ça. Et puis, en fait, on a constitué un groupe. On est 11 auteurs qui se sont engagés dans le projet à publier chez Exemplaire quand la maison d'édition sera fonctionnelle. Et du coup, on a réussi à récolter 100 000 euros en... Alors c'est en fait.
Vous n'êtes pas des petits débutants non plus. Il y a des noms là dans la.
Ah oui, moi-même je suis pas non plus 22 ans, donc j'ai demandé aussi à des gens de mon âge, voire des gens un peu plus connus, âgés, reconnus, comme par exemple, il y en a Charles Berberian, il y en a 11, je ne vais pas les dire tous parce qu'il y en a qui vont se sentir blessés si je les oublie, mais je les aurais pas oubliés de toute façon. Mais oui, il y a eu des gens. Un peu connu, il y a des gens pas connus du tout, mais quand même connus sur... En fait, tout le monde a au moins une notoriété relative sur les réseaux sociaux. Parce que le concept de cette maison d'édition, c'est de se baser sur le fait que les auteurs font eux-mêmes leur promotion. Donc, on part sur des auteurs qui ont une présence sur les réseaux sociaux. Donc c'est un projet qui joue beaucoup sur les réseaux sociaux et qui marche beaucoup par financement participatif, puisque notre maison d'édition va être, la Pierre Angulaire, ça va être un site qui va être aussi un site de financement participatif. Donc chaque livre va être lancé en financement participatif. Si elle n'arrive pas à atteindre ses objectifs, le livre ne rentre pas en production. Donc il n'y a pas de dette, enfin, la maison d'édition n'avance pas d'argent, et c'est du coup tout l'argent qui est récolté, il sert à faire le livre, et le surplus est remis à l'auteur, et ensuite l'auteur touche des droits beaucoup plus importants, parce qu'après on a des différences structurelles qui font que ça coûte beaucoup moins cher, et tout l'argent est reversé à l'auteur. Mais tous les gens qui travaillent sur le livre, en passant par le maquettiste, le correcteur orthographique et le suivi de fabrication, tout le monde va être payé au pourcentage.
Et par contre, vous allez laisser la porte ouverte, il va y avoir un comité éditorial pour faire entrer des gens.
Oui, c'est pas un fourre-tout. On reste une maison d'édition, donc il y aura un comité de sélection et un comité de lecture. Et il y aura aussi des éditeurs. Là, par exemple, on a une éditrice qui est rentrée dans l'équipe très tôt parce qu'elle nous a contactés dès qu'elle a vu le projet. Elle a dit « Mais moi, c'était une amie à moi, enfin, on se connaissait. » Et j'ai beaucoup de respect pour son travail. Et quand elle m'a dit « Ça me plairait de faire de l'accompagnement éditorial », j'ai dit « Mais viens, parce que nous, notre idée, c'est pas... » Et ça, je le tiens à le dire parce que ça a été un peu une... Enfin, il y a eu un peu une confusion. On se dit pas « Ah, les auteurs, on peut faire tout seul, on n'a pas besoin des éditeurs. » Moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui souhaitent et qui ont besoin d'être accompagnés dans leur processus créatif par une personne qui est capable de leur dire « Là, ça va, là, ça va pas », d'avoir des relectures, mais pas avec cette répartition de droits, quoi.
Vous allez devenir éditrice, vous allez quand même sélectionner ou déléguer ce genre de boulot.
Moi, je pense que je ferai partie du comité de lecture, ouais. Évidemment, et parce que pour l'instant, on n'a pas non plus 5000 livres à juger.
Il y a un risque.
Oui, mais pour l'instant, bien sûr, je vais faire partie du comité de sélection et on va pas publier n'importe quoi. Après, nos critères ne sont pas les mêmes que ceux que j'aurais moi toute seule si j'étais directrice de collection dans une maison d'édition et que j'avais vraiment que je pouvais éditer n'importe qui me plaît. Je ferais pas forcément les mêmes choix. Là, les choix qu'on va faire seront conditionnés avec la viabilité du projet et avec le professionnalisme et et l'intérêt du sujet. Mais on a une flexibilité du moment où le projet est sympa et que surtout il est viable. On voit pas d'objection. Il y aura une charte éthique. Donc s'il rentre dans la charte éthique, donc c'est un projet qui fait ni l'apologie du fascisme, ni l'apologie du nazisme, ni l'apologie du sexisme. Enfin voilà, on a une charte éthique qui fera que tous les projets ne pourront pas trouver leur place chez nous. Des critères de viabilité. Et à partir de là, des critères de... Après, il y a des goûts personnels, mais on va faire comme une maison d'édition, quoi. On va faire des choix éditoriaux.
On imagine un auteur de BD un peu solitaire. En fait, vous aimez quand même les aventures collectives. Alors, même dans l'année exemplaire, on ne l'a pas dit. Je voulais faire une spéciale dédicace, d'ailleurs. À un moment donné, vous n'en pouvez plus, là, de la page journalière. Et vous faites un appel à contribution pour l'invité exemplaire. Je fais une spéciale dédicace à Bobica, jour 171, qui a illustré qui fait la une du dernier avis. Et qui vient à votre aide avec d'autres.
Oui, tout à fait. En fait, il y a eu un moment où moi, j'étais vraiment au bord de craquer, parce que publier tous les jours, ça veut dire qu'on n'a pas un seul jour de pause pour se relaxer l'esprit dans l'année. Sachant que moi, je n'avais jamais d'avance, c'était toujours à flux tendu. J'ai un ami qui m'a dit, mais fais demande de l'aide. Et donc, en fait, j'ai fait un appel. Et effectivement, il y a eu 200 personnes à peu près qui m'ont envoyé des projets. Et j'ai dû faire une sélection, forcément. Et du coup, une fois par semaine, il y a une personne, il y avait l'invité exemplaire, qui venait parler de sa propre conception de l'addiction ou de l'exemplarité. En gros, il fallait que le sujet soit un peu en cohérence avec soit le contexte, soit le sujet, le thème, on va dire. Et du coup, il y a eu effectivement une quarantaine d'invités qui ont participé à mon bouquin et à qui j'ai demandé l'autorisation d'être publié dans la BD et à qui j'ai promis, je leur ai évidemment envoyé deux livres, et puis à qui j'ai promis un dessin original chacun. Et d'ailleurs, je le redis publiquement, je remplirai ma promesse, mais j'ai pas pu le faire d'ici là, parce qu'entre-temps, il y a eu... j'ai même attrapé le Covid après le défi, donc j'ai pris du retard. Mais oui, donc tous ces gens-là, sans eux, en fait, j'aurais jamais pu finir le livre et vraiment y remplir mon contrat ultime, et qui était c'était de faire une page par jour. À partir du moment où j'aurais pas fait une page, je pense que j'aurais foiré mon défi. Le dernier truc du défi, c'était vraiment de publier tous les jours. Et grâce à eux, j'ai pu le faire. Et il n'y a pas eu un seul jour dans l'année où il n'y a pas eu quelque chose qui est sorti.
Alors l'émission on est presque à la fin. Et vous allez publier, vous l'avez déjà dit, dans cette maison exemplaire, d'édition exemplaire, un travail, une BD à la folie, hein, titre provisoire, hein, attention.
Oui.
une enquête de terrain au cœur de la santé mentale et du rétablissement en psychiatrie, c'est le programme.
Oui, en fait, il y a quelques années, j'avais été approchée par des collectifs qui bossaient beaucoup sur le rétablissement en santé mentale, c'est-à-dire l'idée selon laquelle on peut vivre heureux et avoir une vie épanouie tout en étant étiqueté, bipolaire, enfin tout en souffrant de maladies psychiques, qu'en fait, c'était pas une condamnation à perpète, et qu'on pouvait survivre en dehors de l'hospitalisation, et qu'en fait, avec du soutien et des moyens, on pouvait arriver à mener une vie décente, et qu'aussi, avec aussi la notion qu'il existe des experts d'expérience, donc les travailleurs pairs. C'est-à-dire qu'on peut devenir l'expert de sa propre pathologie et pouvoir aider les autres grâce à sa propre expérience. Donc, c'est plein de démarches qui sont beaucoup importées des pays du Nord, hein, que ce soit les États-Unis, le Canada et aussi les pays du Nord de l'Europe. Et donc, c'est extrêmement intéressant parce que ça amène une autre vision aussi sur la santé mentale, sur la maladie psychique.
Et là, vous croisez, vous avez publié 2-3 planches, vous démarrez de l'intime, à nouveau, vous parlez de votre famille en disant...
Oui, je me suis dit par où je... Parce que j'avais déjà fait, en fait, 2 albums chez l'association qui s'appelle HP et qui parle, en fait, de la carrière de ma mère et de mon beau-père en hôpital psychiatrique de la fin des années 60 jusqu'au début des années 80 et qui parle de l'évolution de la psychiatrie à Marseille. Et du coup, par ce biais, j'avais rencontré un psychiatre, donc Vincent Girard, qui m'avait contacté en me proposant de travailler sur un lieu pilote à l'époque, le lieu de répit à Marseille, qui se proposait de faire une alternative à la rue pour les personnes sortant de l'hôpital psychiatrique sans domicile fixe. Donc c'était un centre d'accueil et donc qui fonctionnait en sociocratie, donc c'est une méthode c'est une méthode de fonctionnement qui n'est pas la démocratie, c'est une autre méthode qui est basée beaucoup sur la parole, sur le collectif, sur des micro-groupes de travail. Enfin, c'est super intéressant. Et donc moi, je suis allée pendant un an en observation dans ce lieu. J'y suis allée une fois par semaine en réunion. Je suis même partie en Laponie pour étudier l'open dialogue avec une équipe. Et à l'époque, tout le monde travaillait ensemble. Les résidents travaillaient aussi à améliorer le lieu. C'était beaucoup en autogestion. Il y avait quand même des gens qui chapeautaient un peu ça. Et finalement, en fait, le modèle n'a pas fonctionné. Je ne dis pas que le lieu n'existe plus parce qu'il existe. Mais tout ce sur quoi j'avais travaillé, en fait, est un peu parti à volo parce que tous les employés, enfin les salariés ont été remerciés. Le fonctionnement a dû changer parce que finalement, les résidents n'arrivaient plus à s'en aller. Ils ne voulaient pas partir, en fait. Il y a eu vraiment un gros problème de transition. Ils se sont installés. Or, ce n'était pas un foyer, c'était un lieu de transition. Et donc, tout mon travail, en fait, est un peu tombé à l'eau et j'ai arrêté. J'ai fait une grosse pause. Et là, j'avais envie de reprendre avec un axe plus large mon projet, quoi. Il y a aussi des gens que j'ai interviewés longuement et qui n'ont plus voulu être dans la BD. Et moi, j'avais fait genre 40 pages de BD sur des personnes qui n'ont plus souhaité y être. Donc, ça m'a... Donc là, je reprends, mais en étant plus large. Donc, je ne vais pas être que sur un lieu, je vais être sur plein de lieux. Et c'est plus global. Voilà, c'est une approche plus globale du sujet.
Finalement, vous faites un boulot de journaliste. Enfin, vous avez l'air très rapproché des sociologues, mais c'est aussi un boulot de journaliste. Ça veut dire
fait.
Que...
Moi, je ne suis pas journaliste. Donc, ce qui fait qu'il y a des parties d'enquête que je vais faire seule, mais j'ai déjà demandé à plusieurs journalistes marseillais de m'accompagner le temps d'une enquête, donc sur des morceaux, et de le faire avec moi. Et je pense que je vais faire pareil avec des sociologues. Moi, je pense que plus je serai accompagnée par des experts dans cette enquête, et plus ça sera riche et intéressante, parce que c'est l'expérience qui me l'a montré avec la jungle de Calais. Seule, j'aurais jamais fait un livre de cette qualité. Ça a été vraiment lié au professionnalisme et à l'intelligence aussi de Yasmine Boaga qui a su orienter le récit. Et donc là, l'idée, c'est aussi de me faire accompagner à plein de moments, de ne pas faire ça seul.
Et là, les auditeurs qui nous écoutent en ce moment disent « Ouh là là, ça démarrait marrant !» Et c'est un peu comme le Ravi, en fait. C'est un roman satirique, puis ça s'avère très chiant, en fait. Il y a plein d'articles, c'est trop compliqué.
Vous dites que je suis chiant ce que je raconte, c'est ça?
Non, mais c'est très sérieux, tout ça, en fait.
Ben oui, mais ce sera traité
avec... Et les enjeux sont à nouveau, on est dans le lourd, là.
Oui, mais après, le ton sera pas lourd. Enfin, moi, l'idée, c'est justement...
Ça démarre pas lourd.
ça sera... Le sujet, moi, j'ai pas trop... Enfin, je trouve pas que le sujet
HP
est lourd.
HP était très marrant aussi.
C'était dur, mais la façon dont ça m'a été raconté, parce que moi, là, je retranscris des témoignages, elle était drôle. Donc, parce que les gens en HP, les infirmiers, ils rigolaient beaucoup. Hein. Je pense qu'ils rigolent encore beaucoup. Mais c'est obligé, à un moment donné, le rire, c'est aussi un pansement, c'est aussi une manière de supporter le réel. Et je pense que... moi, j'avais lu des témoignages... Alors, je suis désolée, point Godwin... Mais j'avais lu des témoignages de personnes qui avaient survécu au camp de la mort et qui disaient on a vachement ri en fait qu'une fois qu'on Moi, je pense vraiment que le jour où une personne ne peut plus rire, c'est la fin, c'est la fin. Qu'en fait, le rire, c'est le dernier rempart avant le désespoir. Il y en a d'autres qui disaient que c'était la politesse du désespoir. Hein, mais le sujet là, j'en parle de manière sérieusement. Enfin, et puis je perds un peu mon français aussi. J'en parle de manière sérieuse, mais c'est pas pour autant qu'il va être traité de manière austère et sérieuse. L'idée, c'est justement que ce soit vivant, que ce soit... Donc ce sera... publié régulièrement sur les réseaux sociaux. Moi, j'aime beaucoup l'idée de la prépublication en public. Donc, en fait, tous les lecteurs verront le livre avancer au fur et à mesure. Je suis pour aussi proposer en lecture gratuite des livres que je vais vendre par la suite. Par exemple, un exemplaire, elle est disponible complètement gratuitement sur mon site. Hein. C'est juste que les gens, en fait, aiment avoir le livre et avoir l'intégrale. Et je joue là-dessus. Donc, j'aime bien l'idée du feuilleton qu'on suit. Donc, ce sera plus une aventure au cœur de la santé mentale qu'un drame. Après, évidemment, il y a des parcours de vie dramatiques. Hein. Ça, c'est la réalité. Et puis, surtout, c'est des personnes qui ne sont jamais crues, qui sont rarement crues, qui sont rarement entendues et qui souffrent beaucoup d'être pas prises au sérieux. Parce que le problème, c'est qu'une personne, en fait, qui a des problèmes de santé mentale a 7 fois plus de risques qu'une autre de subir de la maltraitance. Or, les gens pensent, il y a une espèce de pensée de légende urbaine, en fait, une pensée que le malade, la personne qui a des troubles psychiatriques est dangereuse. Alors qu'en fait, elle est plus dangereuse pour elle-même et surtout, elle est plus victime d'abus que actrice d'abus. En fait, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas plus d'agressions commises par ce qu'on appelle dans les médias, parce qu'on aime bien les déséquilibrer. En fait, c'est hyper rare. La plupart des gens qui agressent les autres sont des personnes qui ne sont pas, entre guillemets, déséquilibrées, genre, enfin, qui ne sont pas ni schizophrènes, ni étiquetées bipolaires, qui pour autant commettent des violences horribles. Donc voilà, c'est aussi remettre les choses à leur place, dire arrêter d'avoir peur des personnes qui sont différentes. Oui, elles font peur dans la rue parce que quelqu'un qui hurle tout seul dans la rue, ça fait peur. C'est pas pour autant qu'il va venir vous mettre un pain, quoi. Et il va plus risquer de s'en prendre un, par contre. Donc voilà, c'est aussi parler de tout ça et remettre un peu. Et puis donner la parole. Moi, là, ça va être un livre qui va être beaucoup. La parole va être beaucoup donnée aux personnes concernées, alors que les deux autres livres que j'avais fait, c'était vraiment la parole infirmière. Là, ça va être la parole des personnes concernées directement. Donc ça demande aussi du temps parce qu'il faut avoir la confiance des gens. Et grâce à cette année dans ce lieu de répit, j'ai quand même fait plein de connaissances et rencontré plein de gens chouettes. Donc je pense que je vais partir de eux pour...
Et donc votre premier album, Frénat Marseillais, va être sur la folie à Marseille.
Voilà, ouais, bah c'est pas forcément un décalé, hein, parce que c'est quand même une ville avec un petit peu faux-folle. Mais ouais, ça va être ça. Et ça va être, publié au quotidien.
Et là, encore une fois, vous êtes sur le temps long parce que bon, ce travail a démarré il y a longtemps, vous le poursuivez, mais les journalistes, les sociologues constatent que là, dans la période qui est la nôtre, on a tous un grain enfin voilà, il y a un impact psychologique fort là sur ce qu'on traverse.
Bien sûr. Après, moi, je suis ni sociologue ni psychiatre, mais c'est clair que je le vis comme vous, comme on le vit tous. C'est une période difficile. Après, pour moi, elle a été génératrice de... Enfin, elle a un peu exacerbé... Il y a eu un truc de créativité qui est sorti pour... Mais pour moi, hein, de cette période, je pense que c'est pas pour rien que je monte cette structure maintenant, par exemple. Je pense qu'on a eu beaucoup de temps enfermé. Les réseaux sociaux et la technologie a pris énormément de place. Et je pense que ça a aussi rendu possible plein d'innovations et dont je fais partie... Enfin, c'est un mouvement dont je fais partie et je pense que c'est pas un hasard que je puisse lancer ce projet que j'ai depuis longtemps et qui se lance maintenant. C'est pas un hasard. Je pense que le contexte actuel a aussi joué et que c'est un moyen aussi de pas sombrer dans la dépression, parce que la dépression, c'est quoi? C'est l'incapacité d'agir, l'impossibilité d'agir sur les choses. Et en fait, produire quelque chose, créer quelque chose pour essayer de sortir d'un état dépressif, c'est tout sauf la dépression. Et je pense que ça a été quelque part une réaction à cette ambiance de dépression que de dire « Ah là, je vais agir sur mon environnement, je vais essayer de proposer autre chose ». Donc voilà, je pense que ça a été un mécanisme de survie quelque part aussi.
Bon, là, on résume, l'émission va bientôt se terminer. Lisa Mandel, candidate à la présidence de la République.
Exactement.
Il y a déjà les affiches Gare Saint-Charles. Hein, vous êtes exposé Gare Saint-Charles. Et là, je suis sérieux.
Après le McDo, sans vouloir faire de la pub.
Voilà, parce que c'est Angoulême qui affiche des auteurs de BD partout. Donc, vous pouvez voir les planches Gare Saint-Charles. C'est le seul musée ouvert actuellement à Marseille.
Dans les galeries.
Et puis, une sélection au Festival d'Angoulême aussi.
Oui, tout à fait. Je suis sélectionnée pour le Fauve. Je suis à la sélection officielle du Festival d'Angoulême pour le Fauve. Du meilleur album, mais aussi pour les fauves qui y sont, plus le prix France Télévisions qui est aussi allié à Angoulême.
Vous avez des jurés là-bas, c'est important,
oui,
ça, ça met la pression, ça met
Angoulême, un prix. Alors Angoulême, on peut, en ce moment, il y a pas mal de soucis avec Angoulême parce qu'il y a la précarisation des auteurs, donc il y a même des appels au boycott, et ça, mais ça reste le Festival de Cannes des auteurs de BD, donc moi, évidemment, que pour moi, c'est extrêmement précieux d'avoir été sélectionné, et je crois beaucoup dans le sérieux de l'institution. Et pour moi, c'est très important. Je ne vais pas faire semblant que je m'en fiche. Quand je ne m'en fiche pas, c'est une reconnaissance que je trouve extrêmement importante. Après, il y a plein de problèmes, mais ça, c'est lié voilà, aux organismes en général.
Bon, allez, ce sera le dernier mot. Ouais. Merci beaucoup et au mois prochain avec un autre invité.
Au revoir.
La Grande Tchatche, le Ravi, Radio Grenouille.